Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré à la création, aux artistes et chercheurs et à tous ceux qui contribuent par leur travail à ce qu'une œuvre d'art voit le jour. En compagnie de nos invités, au travers de leur parcours individuel, propre à un ou des domaines particuliers, nous avons pris le parti de décomposer le processus créatif, de le triturer, de l'examiner à la loupe. Et à la fin de notre odyssée, peut-être une image plus précise du travail des artistes ou des chercheurs émergera, ou au contraire, un kaléidoscope d'expériences à la fois unique et semblable. Dans peu de temps, nous prendrons le temps de faire un premier tableau de ce que nous avons trouvé. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en voyage. Pour cet épisode, nous allons évoquer le lien entre la créativité et les synergies. On sait que les lieux ont une importance dans la créativité, ils peuvent être à l'origine de tendances, de mouvements artistiques, mais ils peuvent aussi être à l'origine de synergies, de rencontres entre artistes qui repartent dans un nouveau processus créatif à partir de discussions avec d'autres artistes, dans d'autres lieux, d'autres espaces pour exposer, créer, vendre ou encore collaborer. Un nœud, des réseaux et au final une toile. Et pour activer ces réseaux, ces toiles, il faut des vecteurs, des acteurs, des nomades et des moteurs. Oui, ça fait bizarre, hein, plein de concepts, mais on va essayer de comprendre. Des vecteurs, ce seraient ceux qui savent parler de l'art auprès du public. Des acteurs, ce seraient ceux qui produisent évidemment des œuvres artistiques. Des nomades, ce seraient ceux qui n'ont pas peur de bouger, d'aller voir, de se déplacer, d'imaginer de nouveaux rendez-vous, de créer des plateformes et de redistribuer autrement les lieux où on parle d'art. Enfin, des moteurs, ce seraient ceux qui activent ces lieux en étant à la fois vecteurs, acteurs et nomades. Les réseaux sociaux, le retour au circuit court, tout aujourd'hui permet de créer ces synergies. La question étant de savoir si ces énergies peuvent durer ou si en définitive elles n'ont de durée que le temps de produire un à deux événements, un peu comme des cycles naturels dont il ne faudrait pas brusquer les naissances ni les disparitions. Pour évoquer aujourd'hui ces problématiques au travers de son parcours en tant que vecteur, acteur, nomade et bien entendu moteur, Steve Grandcyr.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Steve Grandcyr, on va commencer comme avec tous les invités, on va d'abord essayer de comprendre un peu d'où vous venez. Alors, pas savoir forcément votre parcours exact, mais surtout savoir quel est le lien entre votre famille et le monde artistique. Est-ce qu'il y avait des personnes qui pratiquaient donc dans le domaine de l'art dans votre famille?
Pas du tout, non. Aucun, en tout cas que je sache, il n'y avait aucun artiste à la maison et autour de nous. Mais ma mère avait une espèce de sensibilité à la création, elle était commerçante. Elle faisait toujours des vitrines complètement dingues dans son magasin, les gens s'arrêtaient pour voir, elle faisait des décors. Voilà, donc il y a toujours eu ça à la maison, je l'ai toujours vu faire. Mm-hmm. Et du coup, ça m'a toujours donné envie de faire aussi.
Mm-hmm. C'était dans quel domaine, cette boutique?
Dans les pompes funèbres.
Ah, voilà. C'est original.
Mes parents étaient assistants funéraires tous les deux.
D'accord.
Et ma mère avait sa boutique, mon père aussi, et donc du coup, on vivait au-dessus du magasin. Mm-hmm. Donc avec mon frère, on a passé beaucoup de temps dans le magasin et à voir du coup notre mère travailler pour sa vitrine.
C'était un univers qui vous fascinait? Je parle au niveau des objets.
Oui, bah complètement. C'est puis moi, mon grand-père était gardien de cimetière aussi, donc il y avait ça dans la famille depuis le début. Du coup, la sensibilité aux choses anciennes, au respect de ce qui a été fait avant aussi. Donc tout ça mélangé fait que la création, elle a toujours été à la maison. Quoi.
Mm-hmm. Et alors, vos premiers contacts avec les œuvres artistiques, il se fait par l'école, il se fait comment?
Ouais, par l'école. Mes parents, ils travaillaient 6 jours sur 7 et le dimanche, ils faisaient absolument rien à part quelques bricolages à la maison. Mm-hmm. Donc c'est vraiment avec l'école que je suis sorti et que je suis allé dans les musées, que j'ai vu que des choses existaient à côté et qu'on pouvait faire des choses et créer des choses.
Mmh. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé comme domaine artistique? Musique, peinture
La musique depuis le départ, mais j'ai un souvenir d'enfance complètement dingue. C'est un spectacle musical avec la manipulation d'objets, une espèce de jeu de loi géant où on jetait les dés, des choses se passaient, des portes s'ouvraient, des boîtes s'ouvraient, des acteurs arrivaient. Il y avait la musique, et donc tout ça, ça m'a vraiment marqué jeune.
À partir de quand vous commencez à pratiquer vous-même, et quel domaine vous avez pratiqué en premier?
Alors, dès très jeune, j'ai eu une boîte de Lego. Et cette boîte de Lego, ben, tout de suite, ça lance dans la création. Et à voir ma mère faire des choses dans sa vitrine, du coup, moi, je reproduisais des petits jardins japonais dans ma cour, avec la mousse que je trouvais sur les arbres, etc. et tout. Et du coup, ben, tout ça mélangé fait que moi, gamin, je m'ennuyais jamais. J'avais toujours un truc à faire, soit les Lego, soit j'allais dans la cour. Enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose à faire.
Ça dépassait la reproduction, ces premières maquettes, ou alors c'est dans le sens vous cherchiez pas à reproduire quelque chose qui était donné par le jeu, ça dépassait.
Non, mais en fait, dans un premier temps, je montais le modèle officiel, comme on dit, et après je créais mes propres reconstructions.
Et comment votre famille percevait cette activité? Elle vous a encouragé, ou alors?
Oui, c'était pas. De toute façon, moi j'étais tellement addict à ça que après Noël, anniversaire, c'était pas compliqué. c'était absolument toujours une boîte de Lego, donc.
D'accord, vous deviez avoir beaucoup de matériel.
Ouais, déjà on était deux avec mon frère, et du coup, on était tous les deux addicts à ça aussi. Et du coup, on avait chacun une boîte à chaque fois, et d'année en année, on a cumulé et on avait une belle collection.
D'accord, mais c'est pas forcément ça que vous avez choisi comme étude, par contre.
Non, j'ai pas fait des études d'art. J'ai postulé pour faire un bac art appliqué. J'étais pris, mais je suis pas allé parce que fallait être interne et je voulais pas être interne. Je voulais pas quitter mes copains, ma famille, mes Lego. Donc je suis pas parti. J'ai pas fait ça et j'ai fait autre chose. Je suis allé dans le sport. Et parce que je tiens pas en place, donc du coup il fallait que je fasse des choses, voilà, faire du sport c'était aussi l'occasion de faire quelque chose. Et donc j'ai pas du tout fait d'études d'art,
voilà. Vous y êtes retrouvé dans le sport? Enfin, je veux dire, vous avez trouvé d'autres choses à développer?
Au niveau exutoire, oui.
Ouais.
Et il y avait quand même aussi un processus de création, parce qu'on avait des cours comme corps expression et communication, on avait des cours de danse. Moi j'étais gymnaste. Et du coup dans ces trois disciplines, il y a forcément la création, parce qu'on doit créer un enchaînement. Ça reste de l'artistique, la gymnastique c'est quelque chose d'artistique, donc j'y ai trouvé un peu de réconfort là-dedans.
Et alors après sortie de STAPS, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, ce qui se passe, c'est que j'étais aussi passionné de musique. J'allais beaucoup dans les concerts et donc j'ai décidé d'ouvrir un magasin de disques à Reims.
Disque vinyle, donc.
À l'époque, non.
Non.
C'était le tout début. Je commençais à avoir un peu de vinyle, mais c'était pas encore l'essor. D'ailleurs, j'ai ouvert en 2007 et il y a eu la crise en 2008. Donc, du coup, j'ai pas tenu le choc. Mais dans ce magasin, j'avais laissé les murs blancs. J'avais pas mis de grande étagère et les artistes venaient exposer. C'était ma façon à moi de retourner un peu vers le milieu artistique. C'est là que j'ai connu du coup tous les amis artistes que je côtoie actuellement.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est comment ils sont venus à la boutique, ou comment s'est fait le lien? Est-ce que c'était des gens que vous connaissiez avant, ou sont des gens que vous avez rencontrés sur place?
Pas du tout, j'étais en train de faire des travaux dans la boutique et c'était marqué disquaire et exposition d'art, et Anne-Sophie Villy a toqué à ma porte. Le rideau était abaissé encore, donc elle est passée sous le rideau et elle a débarqué dans ma boutique et du coup elle m'a dit moi je suis artiste. Et puis du coup c'était parti. Après il y a eu un tas de chaînements, des artistes qui sont venus exposer chez moi, la création de maisons vides pour lesquelles j'étais bénévole. Et du coup j'ai vraiment mis un pied dans le milieu artistique à ce moment-là.
Le fait de gérer des expositions, non, même si c'était le tout début, l'origine, ça vous a apporté quoi, et qu'est-ce que vous aviez comme intention en exposant ces artistes?
Alors, j'avais pas vraiment d'attention. Je savais que j'avais une sensibilité pour le milieu artistique. J'étais attiré par ces choses-là. Ces choses-là, je parle des objets et des gens qui les font. Et du coup, c'était pour moi naturel de laisser les murs libres pour eux.
Vous organisiez des vernissages?
On faisait des vernissages. J'ai reçu Coralie Datt, par exemple, Anne-Sophie Velli.
Là, vous avez découvert tout un réseau, en fait, d'artistes.
C'est ça, en fait, c'est vraiment la rencontre avec Anne-Sophie Velli qui m'a vraiment ouvert tout ça.
Vous participez à Maison Vide, c'est ça, à la création?
À la création, au départ, on a fait les travaux là-bas, et on a fait la première expo là-bas, et je suis resté bénévole quelques années.
Vous avez appris quoi de ce lien avec Maison Vide?
Comment on traite les artistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'artiste, on lui laisse un mur, il expose, il est content. Mais non, c'est pas que ça, en fait. faut pas dénigrer ça, et faut toujours penser au fait qu'un artiste doit être payé. Mmh. Et ça a été vraiment le fer de lance de Maison 8, c'est de respecter les artistes, et la création, ça se paye. Mmh. Ça s'admire, mais ça se paye. Mmh. Et ça, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On a demandé des subventions. Aucun artiste n'a exposé gratuitement. Enfin, on se bat vraiment pour ça, pour la gratuité, quoi.
Alors, tout de suite, finalement, vous avez un regard sur le lieu dans lequel il expose, comment il va pouvoir vivre de ce lien, et puis le fait de créer des connexions entre les artistes. Des maisons vides, vous avez déjà ce regard-là.
Oui, c'est ça, ouais.
Et c'est ce qui va vous pousser à créer Marché Super, ou ça, on n'est pas encore dans la bonne chronologie?
Non, ça s'est fait, en fait, justement, à force de côtoyer les artistes, et de voir que certains artistes avaient des difficultés à vendre, parce que la vente, c'est un autre métier. Moi, à ce moment-là, j'étais fonctionnaire, je me suis dit, je m'ennuyais beaucoup dans mon travail, et je m'étais dit, je réfléchissais à changer de métier, je me suis dit, le jour où je peux arrêter ça, je propose aux artistes de vendre leurs créations. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas forcément faire, et qu'ils n'ont pas envie de faire en plus, parce que c'est pas, quand on est artiste, on n'a pas forcément envie de vendre, ce qu'on veut, c'est créer. Et du coup, je leur ai dit, si vous voulez, moi, je vous déleste de cette tâche que vous n'aimez pas, et moi, je le fais pour vous.
Ouais. Est-ce que vous pourriez la décrire, cette tâche, plus précisément? Ça se décompose comment, puisque vous continuez à la mener?
Alors déjà, il faut discuter avec l'artiste, savoir ce qu'il a envie de vendre, voir, essayer de prévoir ce que le public va avoir envie d'acheter. Donc, on fait un travail d'échange avec l'artiste. Après, moi, je prends les créations, et c'est moi qui gère tout de A à Z. Je prends les photos. L'artiste me donne le plus d'infos possible sur cette œuvre, et après je les mets en vente sur le site internet.
D'accord. Donc c'est la création aussi du site et toute la gestion aussi financière?
Oui, en fait, j'ai dû tout apprendre. J'ai fait des formations compta. On m'a appris à gérer un site internet. Un ami graphiste qui a créé le site m'a appris à gérer tout ça, et voilà, c'était...
C'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, qui vous passionne vraiment, de mettre en lumière les artistes?
Voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est mettre en lumière les artistes. Après, forcément, il y a forcément toujours une contrepartie, et du coup, effectivement, faut maîtriser l'informatique, faut maîtriser la photo, il faut être organisé pour répondre aux clients, envoyer des colis aussi, enfin voilà, il y a d'autres choses qui se font derrière, qui n'ont pas été faciles au début. Parce que moi, ce que je voulais, c'était juste vendre, aux artistes. Mais après, je me dis, derrière, il y a d'autres tâches à prévoir. Mais voilà, en fait, tout ça, la passion a fait que ça s'est fait naturellement.
Est-ce que vous êtes satisfait maintenant du site? Là, on parle juste du site relié à Marché Super, son fonctionnement, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à modifier aujourd'hui?
Alors, le site en lui-même, il est fonctionnel, tout va bien. Après, il y a encore beaucoup de travail en communication. Parce que du coup, on s'est rendu compte que effectivement, il y a créer, il y a vendre, mais aussi communiquer. Donc ça, les artistes le font un peu, je le fais un peu, mais on se rend compte que c'est un peu là où ça pêche beaucoup. C'est très très dur de parler de son travail, de communiquer sur son travail, et de communiquer sur le travail des autres aussi. C'est un autre...
Ça s'accompagne aussi de la mise en place d'événements, je suppose, Marché Super.
Oui, parce que on s'est rendu compte que le public avait vraiment beaucoup envie de rencontrer les artistes, au même titre que moi, j'étais fasciné par eux aussi, et c'est pour ça que je les avais invités dans ma boutique. C'est qu'on aime aller voir les artistes, parce qu'ils ont toujours des choses à raconter, et ils dénoncent des choses, ils embellissent des choses, il y a quelque chose de fascinant, en fait, dans la création artistique. Et donc on s'est dit, il faut aussi créer des événements où le public va pouvoir rencontrer les artistes.
Là, c'est encore un autre travail, parce qu'il faut démarcher, je suppose, des espaces. Il faut aussi rassembler des artistes, les sélectionner. Donc là, comment ça se passe à peu près? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, imaginons un événement, que tout ce que vous faites, vous?
Alors nous, en fait, moi j'ai la chance d'être à l'atelier Hyperespace. On a un petit groupe d'artistes, et il y a une espèce d'émulation qui se crée. Et à force de discuter, etc., on se dit, il faut qu'on fasse un événement pour se faire connaître, pour rencontrer le public. Du coup, on s'est retrouvé avec un petit groupe, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un lieu. Après, quand on a cherché un lieu, il faut se dire, comment on se passe dans l'espace? Moi, c'est moi qui fais ça, c'est l'agencement. Pour que du coup, ce soit fluide, que les gens soient confortables, que les artistes puissent s'exprimer aussi. Et puis après, on trouve un lieu et c'est parti.
Combien d'artistes vous sélectionnez pour ce genre d'événement, environ?
C'est très variable. Pour Hyper Noël, on peut caser 60 personnes, mais pour d'autres petits événements qu'on fait au Shed, c'est 10 personnes, donc, on fait par affinité, on essaie de proposer au public un grand panel de création, de l'illustration, du textile, du cuir, un peu de photographie aussi, de la céramique, sculpture. Enfin, on essaie vraiment à chaque événement, de proposer un panel assez large pour que le public puisse forcément être sensible au moins à un média artistique.
La personne qui vous accueille, elle a un droit de regard sur l'événement, sur l'installation, sur la sélection des artistes?
Pas forcément. De temps en temps, on nous dit « Ah, moi, j'adore cet artiste, j'aimerais bien qu'il soit là. Mm-hmm. » Mais sinon, nous, après, c'est nous qui gérons entre nous. On essaie plutôt de faire plaisir au public que à la personne qui nous accueille. Mm-hmm. Souvent, la personne qui nous accueille, elle nous dit « Ah, je vous laisse carte blanche. Moi, j'aime ce que vous faites. Allez-y, quoi. »
Mmh. Comment après se fait la communication sur ces événements? Est-ce que c'est complexe de ramener des gens à ces événements, du public, pardon?
Non, c'est assez facile parce que notamment grâce à Facebook, un événement Facebook à partager. Et la chance qu'on a, c'est que du coup tous les artistes avec qui on travaille, ils vont partager cet événement.
Relayer. Mmh.
Donc ça fait une espèce de ramification, ce qui fait que sur des événements comme Hyper Noël, par exemple, on reçoit 4000 personnes sur les deux week-ends qu'on organise, ce qui est un énorme événement à Reims. Quoi.
Il y a une habitude maintenant, vous pensez, prise par le public de revoir cet événement?
Ah oui, les gens nous attendent. Clairement, on voit chaque année à l'ouverture, on ouvre à 14h, à 13h30, il y a déjà des gens qui sont là. Il y a même des gens qui arrivent le matin et qui arrivent à rentrer pour aller voir les artistes qui sont en train de s'installer. Donc il y a une vraie addiction à ça. C'est un vrai rendez-vous et on est très content de se retrouver chaque année là-bas.
Est-ce que vous pensez que la crise a pu modifier le regard par rapport à cet événement, la crise qu'on vient de subir avec le fait qu'il y a eu ces confinements et cette difficulté à se rencontrer justement?
Ça a accentué, mais c'est déjà quelque chose qui était déjà entamé il y a plusieurs années avec le consommer local, entre guillemets. Les gens, ils se sont dit, mais d'ailleurs moi aussi quand j'ai créé le marché super, je me suis dit, je mange local, j'ai envie de manger local, mais la déco qui est autour de moi, d'où est-ce qu'elle vient? Et du coup, on s'est tous dit, effectivement, en fait, il y a, plutôt que d'aller acheter un tableau chez un grand Suédois, effectivement, il y a des artistes à Reims qui sont capables de faire des choses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus qualitatives. Et du coup, cette espèce de consommer local est arrivé aussi dans les objets de décoration, en fait.
Et pensez que le public y est sensible, en fait, le fait de rencontrer des artistes qui habitent les mêmes lieux qu'eux?
Complètement. Ouais. Complètement. Ça, c'est évident. Enfin, moi, je vois, il y a des gens, sur des événements que j'organise sur un week-end, des fois, je les vois trois fois, ils viennent trois fois, ils vont chez eux, ils reviennent. Ah, mais j'avais repéré un truc, puis ils reviennent le lendemain, et puis ils ramènent quelqu'un. Enfin, de toute façon, il y a une espèce d'engouement, à rencontrer des artistes, ça, on le voit vraiment.
Combien d'événements vous organisez?
On essaie de. Alors, on a plein de demandes. Il y a plein de lieux qui nous disent venez chez moi faire quelque chose, mais on essaie de pas trop en faire parce qu'on voudrait pas lasser le public. Faut pas que ça devienne le petit côté un peu exclusif est pas mal parce que du coup les gens se disent c'est vrai que là dans deux mois je les vois, donc si c'est tous les week-ends ça va perdre un peu de sa valeur en fait. Et du coup on organise à peu près 2-3 événements par an à peu près, quoi.
D'accord. Les artistes, donc vous expliquez que vous aviez un vivier qui est proche, mais est-ce que des fois vous essayez d'aller chercher d'autres personnes qui sont émergentes?
Nous, ce qui compte pour nous, c'est d'abord de valoriser la création locale. Donc on travaille avec des artistes de Reims, et il y en a déjà beaucoup.
Oui.
De temps en temps, on a des gens de Charleville, des gens de Chalon, des gens de Rethel, mais ça reste quand même assez rare parce qu'ils ont aussi des événements eux chez eux. Et on a tellement à faire à Reims. Au final, on cherche même pas à aller ailleurs parce qu'on sait qu'on va trouver.
Il y a suffisamment. Alors justement, c'est intéressant parce que Reims, c'est pas forcément la ville qui a mis le plus en valeur ses artistes. Je pense, elle peut mettre en valeur des artistes qui viennent de l'extérieur, mais parfois il y a une sorte de manque de reconnaissance par rapport aux artistes locaux. Alors, vous dites qu'il y en a beaucoup. Ça, vous avez évalué un peu à combien ça?
Alors moi, quand j'ai créé le site internet, le marché super, je pensais que j'allais avoir 20-30 artistes. Là, actuellement, j'en ai 70. Et ça augmente encore.
Dans quel domaine, si vous pouvez les nommer?
Alors, des bijoux, de l'illustration, de la photographie, du textile et de la papeterie. Ouais, c'est les grands domaines. Et j'ai 70 artistes sur le site, mais j'en ai encore une cinquantaine, soixantaine qui ne sont pas sur le site.
D'accord.
Donc, en fait, je me rends compte que, en fait,
c'est un vivier très important.
C'est un vivier énorme et chaque mois, j'ai 2-3 contacts qui arrivent encore. J'en ai d'autres qui arrêtent et j'en ai d'autres qui s'arrêtent pendant quelques années, qui reviennent. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et il y a encore plein de jeunes là qui ne connaissent pas le marché super. Et je sais que là, j'en ai encore rencontré hier. Ça fluctue, en fait. C'est vraiment c'est un vivier qui est vivant.
D'accord. Ces artistes, ils sont tous indépendants ou pas forcément?
Oui, oui, souvent ils sont, souvent c'est des gens qui ont un double statut. Mm-hmm. Ils ont le statut d'artiste, mais à côté ils ont parfois un travail alimentaire. Parce qu'on n'arrive pas toujours à vivre de nos créations, ça met parfois du temps, plusieurs années. Et mais ils ont toujours tous cette volonté de vivre de leur création. Oui.
D'accord. Donc là, pour vous avez peut-être un retour de leur part par rapport à ces événements. Pour eux, comment ils les vivent?
Ah ben ils sont toujours super contents. On a d'ailleurs pour Hyper Noël, on n'arrive même pas à caser tout le monde. Il y a des gens qui restent sur le carreau malheureusement. Et
Est-ce qu'il y a d'autres événements de
oui,
même
à Cali? Oui, il y a plein d'autres choses. Oui, il y a plein d'autres choses qui existent, notamment la Chambre des Métiers qui organise un marché au Boulingrin aussi. Il y a un magasin, il y a des slow markets à Quartier Libre. Enfin, on est plusieurs en fait. On se connaît tous. Il y a la Louvre et moi, ce qui eux ont pignon sur rue. Ils ont carrément une boutique. Il y a plein de choses si on gratte un peu. Et moi, quand je rencontre des artistes, je leur dis tu peux t'adresser à telle personne. Moi, le but, c'est pas de garder les artistes pour moi. Au contraire, moi, je leur dis, c'est pas parce que vous intégrez le marché super que vous avez pas le droit de faire d'autres choses. Vous avez le droit d'avoir votre propre boutique. Vous avez le droit d'aller voir d'autres gens qui font la même chose que moi. Au contraire, enfin, plus on sera nombreux à faire de la création, plus on se diffusera les informations, plus on sera fort et plus il y aura du regard sur nous.
Ouais, vous devez avoir à l'heure actuelle une vision assez claire finalement de ce qui se passe sur le plan artistique à Reims.
Ah oui, oui.
Entre votre propre réseau et ceux que vous connaissez parallèlement.
Oui, oui, il y a pas mal d'événements, mais il manque encore à Reims un lieu totem qui permette notamment pour les arts graphiques. Il y a absolument rien pour les arts graphiques. Il y a pas de galerie associative. D'accord. On peut investir.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un gros manque à Reims.
Et c'est un projet que vous pourriez avoir, vous? Ou alors vous en parlez comme ça, en disant...
On en a déjà parlé aux élus, etc. Et tout, voilà. Ça fait son chemin, mais pour l'instant, il n'y a rien de...
C'est un problème d'investissement, peut-être?
Ouais, en fait, ils sont trop frileux. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que la culture... D'ailleurs, il y a eu les assises de l'attractivité de Reims. Et il y a des intervenants qui sont arrivés en disant... Reims, il y a des gros manques. Donc, ils ont vraiment pointé du doigt Reims en disant... ça ne va pas du tout. Ils leur ont prouvé que la culture, la création rapportait énormément d'argent, mais pour autant, pour l'instant, il n'y a rien qui se fait.
Ouais.
Donc, nous, on fait des choses à notre échelle, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas à nous de nous substituer à la ville, c'est aussi à eux, à un moment donné,
de leur faire comprendre qu'il y a une attractivité qui est générée par ce que vous organisez. Il y a une reconnaissance, justement, ou pas, des élus ou des responsables?
Franchement, ils nous laissent quand même gratuitement le cellier pour faire notre événement. Donc, ce qui est quand même une grosse structure, il y a des techniciens, il y a des agents d'accueil, enfin, ça coûte cher. Et ça, on les en remercie souvent, mais on a des très bonnes relations avec eux, mais on les trouve un peu trop timides.
Alors, Steve Grancier, vous êtes aussi artiste au travers des architectures en Lego. C'est quelque chose que vous avez mêlé justement à cette activité Marché Super qui a démarré avant, après?
Ah, alors ça, c'est une bonne question. Ça a démarré avant. Mais en fait, à force de côtoyer des artistes, d'être en couple avec une artiste et de voir les gens créer, du coup, j'ai eu envie de créer. Et de toute façon, bon, j'ai toujours fait ça depuis tout petit. Mais là, je me suis dit, c'est le moment de tester des choses. Et donc j'ai commencé à créer une maquette pour moi que j'ai posée sur un marché de créateurs, sur un stand de ma compagne Émilie. Dès le matin, quelqu'un m'a dit « moi c'est beau, je vous l'achète ». Et je me suis dit « tiens, mon travail intéresse des gens », du coup j'ai continué.
D'accord, et donc vous vous êtes tourné vers quel genre de création? Donc c'est plutôt l'architecture?
Oui, en fait je suis passionné par l'architecture en général et par le patrimoine de Reims aussi. Et je voyais des choses se détruire à Reims, etc. et tout. Et du coup, le fait de faire de la construction, c'était ma façon à moi de les préserver et de faire comme un espèce de souvenir, dire ça, on gardera en mémoire. C'est un peu comme ça qu'est venu le fait de créer des monuments de Reims.
Je vais poser une question peut-être naïve, mais est-ce que le matériau Lego se prête vraiment bien à la construction en architecture?
Oui, de toute façon, ça a été créé pour. Et puis maintenant avec la gamme qu'ils ont créé, une gamme architecture avec des couleurs qui sont vraiment pile poil comme il faut pour créer l'architecture. Donc oui, c'est un média qui est formidable pour ça.
Mais quand vous construisez, donc quand vous créez en fait cette architecture, Donc il y a des commandes, donc vous reproduisez des architectures existantes, mais il y en a aussi qui sont originales, qui vous sont propres.
Oui, j'ai des clients qui veulent leur maison en Lego. Mm-hmm. J'ai des professionnels qui veulent leur entreprise en Lego. Mm-hmm. Je fais aussi des choses pour des ateliers pour les enfants sur des thèmes bien particuliers qu'on me demande. Donc à chaque fois, je suis obligé de créer des modèles qui vont être utilisés pour ce moment-là.
D'accord. Et alors, quand vous créez, donc ça passe par quelle étape ? C'est-à-dire que vous faites d'abord quelque chose sur papier, une architecture sur papier, ou alors vous partez directement dans la construction ?
Alors moi, je travaille avec des photos sur un écran d'ordinateur, un logiciel sur un autre écran, des briques à côté de moi. Mm-hmm. Et du coup, je commence. Je fais des sauts, je fais des tests.
D'accord. Ce
logiciel est en vrai.
Oui.
Il y a un logiciel spécial qui a été développé par des fans de Lego.
D'accord.
Et du coup, on peut mettre brique par brique dans ce logiciel.
Et on voit ce qui se passe.
Et on voit ce que ça donne. On peut faire des rendus, on peut faire des changements de couleurs, etc. Mm-hmm. Et moi, du coup, je travaille avec les photos, des briques et le logiciel.
D'accord. Est-ce que les Lego que vous utilisez, ils sont tous déjà existants ? Alors, je ne sais pas si ma question est claire, mais il peut y avoir des arrondis dans les architectures ou des pièces un peu bizarres. Est-ce que vous êtes obligé de les faire fabriquer exprès ou alors elles existent déjà ?
Aucune pièce n'est fabriquée. J'achète que des pièces neuves. Mmh. Et qui viennent de chez Lego, qui viennent du Danemark.
Et vous arrivez à tout reproduire à l'identique
Non, justement, parfois je suis obligé de faire mon interprétation du bâtiment, parce que des fois je peux pas reproduire au millimètre près. Mmh. Mais du coup, j'essaie de me rapprocher au maximum de la réalité, ouais, et puis de la synthèse du bâtiment, en fait, pour vraiment qu'on le reconnaisse, en fait. Mmh. D'ailleurs, quand je crée une maquette, je peux mettre 20, 30, 40, 50 heures.
Ouais.
Mais à un moment donné, je m'arrête. Hein. Mais je pourrais très bien continuer. Parce qu'en fait, on n'est vraiment jamais satisfait. Et il y a toujours des techniques de montage, c'est sans fin. Il existe des milliers de briques, des milliers de formes, des milliers de couleurs. Et donc, du coup, je réfléchis toujours à un meilleur montage pour être au plus fidèle de la réalité. Mmh. Mais à un moment donné, je me dis, bon, là, faut s'arrêter parce que ce serait pas raisonnable, quoi.
Cette réflexion qui vous prend beaucoup de temps, elle est devant l'ordinateur ou elle est en pratique manuelle?
Les deux, et même parfois la nuit. Donc,
d'accord.
Ça m'arrive des fois en pleine nuit de me dire, mais oui, ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs en devenant moi-même artiste. Avant, j'étais fonctionnaire, donc à 17h, je sortais. Mm. Mon cerveau, hop, je le mettais en off et puis j'étais tranquille. Mm. Alors que maintenant que je suis dans un processus de création, que je suis artiste, et ben mon cerveau il s'arrête jamais, même la nuit. Mmh. Et donc du coup, ben des fois c'est pour ça que je compte même pas mes heures des fois, parce que les heures de réflexion ça peut dépasser des fois la centaine d'heures sur un problème bien particulier que je veux reproduire. Et du coup, je réfléchis puis des fois ça arrive.
Vous faites plusieurs essais sur un même bâtiment ?
Ah oui, ouais. L'avantage du logiciel, c'est que du coup, je le monte en vrai moi à côté, avec des briques de toutes les couleurs qui ressemblent à rien, pour tester surtout la solidité. Et après, dans le logiciel, l'avantage que j'ai, c'est que je peux modifier les couleurs très rapidement, en quelques clics.
Les Legos sont collés ou pas forcément ?
Jamais.
Jamais ?
Non, je les colle pas, parce que si jamais je fais une maquette pour un client et puis qu'il décide de changer la couleur d'un des murs, bah, s'il m'appelle, je peux modifier la maquette.
D'accord. Et quand vous faites vos propres créations, vous donnez quel objectif par rapport à... Enfin, quelles envies, de quoi avez-vous envie de parler, en fait, au travers de ces créations?
Ça dépend. Souvent, c'est quand même une reproduction de quelque chose. Mm-hmm. Ou vraiment inspiré par quelque chose. Mm-hmm. Par exemple, j'ai fait des ateliers... je vais refaire aussi des ateliers au Palais du Tau, sur le bestiaire, sur les tapisseries. Mm-hmm. Donc là, clairement, voilà, il y a un cerf blanc, il y a un crapaud héraldique... il y a une genette, donc là du coup je vais voir les œuvres et j'essaie de faire des animaux qui ressemblent qui ressemblent à ça.
D'accord.
Et après de temps en temps, là j'organise une expo au Shed dans pas longtemps qui va s'appeler Bleu Blanc etc. On a demandé aux artistes de réinterpréter ou d'interpréter leur drapeau français, de se le réapproprier. Et là clairement il a fallu que moi je crée une œuvre qui complètement d'art contemporain, en fait, qui est là pour le coup. C'est un travail de réflexion sur qu'est-ce que je veux faire passer comme message dans ma création.
Est-ce que c'est plus compliqué pour vous ou par rapport aux commandes? Enfin, quelle est la phase qui prend le plus de temps par rapport aux commandes?
Le temps, j'avoue, je le calcule pas trop. Mais quand c'est une commande client, là c'est pas compliqué, faut que je fasse au plus fidèle. Pour que le client reconnaisse son édifice. Mais quand je fais une œuvre d'art contemporain, du coup, ben là, je me débrouille un peu comme je peux, sachant que moi, j'ai pas fait d'études d'art. Mmh. Donc mon processus de création, il est, c'est complètement autodidacte. Et voilà, j'essaie des choses. Mmh. J'en parle autour de moi parce que je suis entouré d'artistes. Mmh. Et puis voilà.
Vous êtes influencé par d'autres bâtiments existants aujourd'hui ou pas forcément?
Non, pas trop. Enfin, je regarde des choses, mais là pour le coup. Quand je fais quelque chose pour l'art contemporain, ça va pas être de l'architecture. Mm-hmm. Ça va être complètement quelque chose de...
Une autre forme.
Ouais, d'accord. Plus abstrait, du coup.
Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous avez aussi la possibilité de faire des ateliers auprès des enfants, quel est le regard que portent les enfants sur vos créations?
Ah bah, ils sont fascinés. C'est vraiment drôle parce que ils reconnaissent, du coup, les bâtiments. Mm-hmm. Donc, ce qui est un peu une petite satisfaction parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens reconnaissent ce que c'est. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les enfants se croient incapables de faire ça et du coup je leur prouve qu'ils peuvent le faire.
Oui.
Et ça c'est génial de leur montrer des choses, des petits assemblages, des petites techniques de travail parce que moi du coup je travaille avec les photos, ça me permet d'avoir des proportions et je leur dis regarde là t'as la photo, il suffit de poser tes briques sur le dessin, sur la photo et du coup tu peux te entre guillemets calquer et ça ils ont pas toujours le réflexe de le faire. Et en fait, je leur donne des petites astuces pour gagner du temps et puis y arriver, en fait.
Ils arrivent à rentrer dans la concentration parce que là, d'un coup, c'est plus uniquement un jeu assez rapide qu'ils pourraient pratiquer, c'est une construction un peu plus longue.
Alors, ce qui est complètement fascinant avec ce média-là, avec les briques, c'est que je fais des ateliers qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et il n'y en a aucun qui décroche.
Ouais.
Et je pense que je pourrais continuer encore. C'est vraiment vraiment fascinant, une espèce de patience face à ce jouet qui
ils sont tous capables de manipuler, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est accessible
à partir de 6 ans, oui.
Ouais.
Ou en dessous de 6 ans, je demande à ce que les parents soient présents, un des deux parents soit présent.
Ça peut être un peu long, enfin, en termes
Ouais, puis c'est quand même des petites briques, des fois, donc au niveau de la motricité fine, des fois, ils l'ont un peu perdu, même si ça revient, je trouve, avec les années, parce qu'on s'est rendu compte que les tablettes, c'était pas forcément positif pour les enfants, et là, actuellement, je suis vraiment surpris du niveau qu'ils ont, vraiment.
D'accord. Et vous-même, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des enfants? Comment vous en ressortez d'un atelier?
Alors lessiver, mais en même temps, leur spontanéité fait que du coup on tient le coup et c'est vraiment chouette. Et du coup, ça fait des années que je fais ça avec les enfants et dernièrement, j'ai fait avec le troisième âge dans une maison dans un EHPAD. Et là, je me suis rendu compte que c'était génial aussi parce que du coup, en fait, quand on devient une personne âgée, on redevient un enfant. Et du coup, ils ont été vraiment complètement fascinés aussi. Ils ont manipulé aussi, ça leur fait du bien parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils utilisent beaucoup moins leurs mains. On les voit, ils ont des doigts pleins d'arthrite ou d'arthrose, je sais pas. Enfin, du coup, ils ont les doigts tout boursouflés, mais ils arrivent quand même à briquer.
Ouais.
Donc c'est assez, c'était vraiment chouette de faire ça aussi.
Ils arrivent à percevoir ils arrivent aussi à se passionner pour l'activité.
Oui. Ouais. En fait, j'ai reproduit une façade d'un EHPAD et il y en a même qui m'ont dit, moi, je dors dans telle chambre. Ils m'ont reconnu. J'avais ramené aussi mes maquettes et il y en a qui ont reconnu Boulingrin, qui ont reconnu le manège de Reims. Enfin, ils ont conscience de, ils ont vécu à Reims quasiment tous toute leur vie, donc ils reconnaissent les monuments. Ouais.
Comme un Lego avec des dents, comme un Lego avec des mains, comme un Lego.
Alors, on va aussi parler d'un autre endroit que vous fréquentez beaucoup, c'est l'atelier Hyperespace. Alors, ça fait aussi partie finalement à la fois de votre rôle d'artiste et puis votre rôle de moteur au travers de Marché Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quelques mots le fonctionnement de l'atelier Hyperespace?
Alors, l'atelier Hyperespace est un espace de coworking artistique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association. On loue un lieu et chacun va occuper un petit espace pour travailler. Donc on a des graphistes, on a des chargés de production pour le théâtre, la danse, on a un artisan d'art, on a des directeurs artistiques, on a des artistes graveurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a moi, du coup, avec le Marché Super et mes briques. On a un designer aussi, voilà, on a plein de... des illustrateurs. Mm-hmm. On a plein de compétences, plein d'artistes différents qui viennent du coup travailler dans cet espace.
Oui. Et le fait de travailler dans le même espace, ça change vraiment les choses, vous pensez ?
Alors, on pourrait clairement tous travailler de chez nous. Mm-hmm. Mais volontairement, on préfère payer un petit loyer et être entre guillemets en communauté pour s'aider. Mmh. En fait, de temps en temps, si on a une question sur quelque chose, une interrogation, on balance l'information dans la question dans le vide. Mmh. Et la réponse, elle nous revient toute seule.
D'accord.
C'est assez magique parce que c'est un open space, donc du coup, tout le monde s'entend et c'est un petit côté rassurant.
Il y a des moments de rencontre entre vous, enfin, je veux dire, où vous vous posez et puis vous discutez chacun de vos travaux ou pas forcément?
Oui, souvent on va voir un tel, tiens, je suis en train de faire quelque chose, tiens, tu voudrais pas qu'on travaille ensemble là-dessus? Enfin, il y a des interactions qui se font, entre artistes, oui.
Ouais. C'est aussi une histoire de superficie, le fait de s'allier ou pas? De superficie d'espace?
Ah, ben oui, clairement, si on avait un lieu cloisonné, avec des cellules, je pense que ce serait pas du tout pareil.
C'est le concept même de l'installation.
Ouais, en fait, volontairement, on a décidé de ne pas s'enfermer. Et il y a des inconvénients parce que du coup, il peut y avoir du bruit, mais en même temps, il y a des interactions.
D'accord.
Donc, c'est plutôt positif.
Il y a une dynamique qui est propre à l'hyperespace ou pas ? Enfin, dans le sens, par exemple, vous avez parlé de collaboration, mais vous organisez des événements ensemble ?
Oui, bah du coup, en fait, le Hyper Noël est vraiment né d'une discussion à midi en disant, ah là là, ce serait bien de faire un événement artistique autour de Noël, on appellerait ça comment? Bah hop, Hyper Noël. Ah, et on inviterait des artistes et voilà, du coup, ouais, effectivement le midi en général, il se passe tellement de choses, on raconte tellement de choses, il y a toujours des projets qui se montent. Il y a un jour Manon et Jean-Charles ont parlé de typographie et ils ont décidé de créer le festival d'Hypofest. Mm-hmm. Où en fait pendant une journée, en fait, on dessine des lettres. Mmh. Voilà, c'est ça le but, c'est de créer une typographie à la fin de la journée.
D'accord.
Et ça, du coup, c'est clairement né à midi en discutant.
Ouais. Et vous pouvez participer à ces projets même si ça vous concerne pas ?
On y participe toujours plus ou moins indirectement. Soit on aide à l'organisation, soit on est en tant qu'artiste qui intervenons dedans, ou soit on va aller chercher un sponsor quelque part qu'on connaît pour faire des impressions. Enfin, chacun va pouvoir apporter ce qu'il veut dans le projet.
Mmh. Et alors, est-ce que justement, ces collaborations, il y a un certain turnover, j'imagine, il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent. Est-ce que c'est perturbant pour l'hyperespace ou pas?
Perturbant, de toute façon, d'Hypofest pour l'instant n'existe plus parce que Manon et Jean-Charles sont partis de l'atelier. Donc, mais on aimerait revoir ce projet revenir, mais voilà, on attend, ça, il y aura peut-être un jour une dynamique, mais de toute façon, clairement, oui, ça tourne à l'atelier. Mmh. On n'est jamais les mêmes. Donc, du coup, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent.
Voilà. Des sélections. Alors, vous sélectionnez les gens qui rentrent dans l'hyperespace ou pas forcément?
C'est forcément des gens qu'un de nous connaît. Mm. Pour pouvoir garder la bonne ambiance. Mm. Voilà, on a des gens qui nous contactent qu'on connaît pas. Clairement, si on doit prendre quelqu'un qu'on connaît pas, il y a une semaine d'essai. Mm-hmm. Pour voir si la personne elle se sent bien chez nous. Et pour voir si nous, on apprécie cette personne. Mm. Mais on est quand même 18 à travailler là-bas. Il faut vraiment qu'on garde une bonne ambiance. Ça fait 10 ans que l'atelier existe. Mm. Et pour nous, c'est vraiment très important de garder cette bonne ambiance.
Vous êtes 18, donc
18, ouais.
Mais 18 tout le temps ou 18
non,
par...
Non, grand maximum, on va être 12. Mm-hmm. Grand maximum, mais c'est très fluctuant. Mm. Il y a des journées où on va être 2 et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on est 12.
D'accord. Et chacun arrive à avoir son espace
Chacun son espace, ouais. D'accord. En fait, il y a différentes formules de loyer. Mm-hmm. Et chacun occupe plus ou moins... place et chacun a son bureau avec son étagère et son matériel qui reste sur place.
Alors comme à tous les autres artistes qu'on invite, on aime bien qu'ils partagent avec nous une œuvre ou un artiste qu'ils aiment bien pour faire découvrir au public, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, que c'est bien qu'il y ait justement des synergies autour de ça. Alors qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors ça a été très difficile,
oui.
Parce que je suis toujours dans la lubie et du coup je change d'avis tout le temps, et j'aime beaucoup de choses. Mais il y a quand même un artiste qui revient depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle Voyou.
Hier encore elle était belle, tout prenait sens entre ses mains. Mais depuis ce matin, ce qui t'émerveillait chez elle t'énerve alors. Ses yeux qui te faisaient voir des montagnes et des rivières sont des pierres que tu. tu ne peux plus regarder les histoires qu'elle racontait et qui d'un rien t'intimidait. Ce matin, elle te sort te parler.
Donc c'est un artiste français qui chante en français et qui a un univers complètement maîtrisé, c'est-à-dire qu'il fait même de l'illustration pour certaines de ses pochettes. Il dessine ses décors aussi, enfin voilà, il a un peu un homme à tout faire. Et voilà, ses textes me parlent, son énergie sur scène est complètement dingue, et voilà, du coup c'est
vraiment... Il parle de quoi en général dans ses chansons ?
Du quotidien, mais toujours de façon, c'est très frais, voilà, c'est très joyeux, très dansant. Et c'est un artiste avec Émilie qu'on va voir dès qu'on peut. On est tous les deux complètement fans de lui. Qu'on a découvert grâce à Anne-Sophie Vély lors d'un festival qu'elle avait organisé. Et voilà, du coup, cet artiste, on le suit depuis des années maintenant. Et voilà, on est toujours très fidèles à lui.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà, on aura la chance de le découvrir grâce à vous. Ouais. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et vos suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc ainsi que la musique et animé par moi-même. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et restez curieux.